Souhaitons la bienvenue à Pastor Love. Prions, c'est la paix qui nous remplit. On traite la noirceur très sérieusement puisqu'on sait que Christ est avec nous. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu nous as donné dans ta parole. Nous te remercions on attend quelque chose. Nous sommes encouragés dans la foi. Oui, Pastor Love, ce matin, lorsqu'il vient pour partager la parole. Ta parole nous établit dans une fondation ferme. Merci, Seigneur. Bénis ce moment ensemble. Merci que nous sommes ici pour te louer. Et le Saint-Esprit, aide-nous à tenir les bonnes choses, les belles choses de ta parole. En le nom de Jésus, on prie. Amen. Asseyez-vous. Bon matin. J'aimerais mentionner que Pasteur Bruce Moon et sa femme sont ici, du Mexique. Il a entendu que je prêchais, donc il est venu aujourd'hui. C'est une blague. C'est bien de vous avoir ici, Pasteur Moon, c'est bien. Bon, on a entendu un bon message ce matin à propos de l'amour, Pasteur Eugene et Pasteur Matt. Ils ont eu deux beaux messages sur l'amour de Dieu. Donc, je suis rentrée un peu en retard. Et les gens m'ont dit, ils prêchaient à propos de moi. J'ai dit, je ne crois pas, mais merci. Donc, ce matin, si vous pouvez ouvrir votre Bible à Psaume 135, nous allons lire quelques versets dans les Psaumes. Et je vais partager à propos de la souveraineté de Dieu et l'importance de comprendre sa souveraineté. Dans Psaume 135, versets 5 et 6, le psalmiste a dit, « For I know that the Lord is great. » Je sais que l'Éternel est grand. On peut dire « Amen » à ceci. L'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Et Psaume 115, dans le verset 3, le psalmiste dit ici, « Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. » Et finalement, Psaume 103, verset 19. Le Seigneur a préparé, Seigneur, bénis ses pensées. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. La souveraineté de Dieu. Nous trouvons du confort dedans. Et j'aimerais, la souveraineté, c'est le fait que Dieu est roi au-dessus de tout. En tant que ses enfants, nous pouvons reconnaître sa souveraineté dans nos vies. Nous, en tant que croyants, nous voyons qu'il n'y a pas d'accident. On peut dire, j'étais dans un accident d'auto, mais je peux comprendre que même dans ces genres d'événements qui passent dans nos vies, Dieu est dedans. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucun événement, aucune partie de notre vie dans laquelle Dieu n'est pas, dans lequel il n'a pas de contrôle et qu'il ordonne dans les vies de ceux qui lui font confiance. Il y a un poème qui va comme ça, qui réfère à la nature de Dieu. Roi souverain des cieux, gracieux, avec de la connaissance, tous mes temps sont dans ta main et tous les événements sont à ta commande. Tout, il n'y a pas d'exception. Il y a des choses qu'on pense que, peut-être qu'on pourrait penser qui ne passe pas par la souveraineté de Dieu, mais pour découvrir peut-être plus tard que même ces choses, toutes ces choses étaient contrôlées par la main gracieuse de Dieu. Nous vivons dans une culture on pourrait dire que nous sommes des victimes, légitimes. Aux États-Unis, nous avons vu plus de personnes jouer au jeu de s'accuser que dans n'importe quel moment de l'histoire. Bon, les gens veulent s'accuser et ne pas prendre responsabilité dans leur propre vie. Je suis de cette façon à cause de ma famille. Je suis de cette façon à cause de mon père. Je suis de cette façon puisque mon frère m'a regardé d'une façon drôle. Ça peut être n'importe quoi. Un professeur. Une fois, mon professeur m'a dit que je suis déficient intellectuellement. Et j'ai été comme ça pour le reste de ma vie. Il y a un coach qui m'a dit que je ne serai rien. Et en résultat, c'est pour ça que je suis sans abri aujourd'hui. Mais vraiment, il y a des victimes. Et nous comprenons. Et nous avons empathie, sympathie avec eux. Mais il y a des victimes illégitimes dans notre culture. Mais il y avait une personne dans la Bible qui ne cesse pas de me choquer lorsque je pense à ce qui s'est passé. Il est une victime. Son nom, c'est Joseph. S'il y avait vraiment une victime, bon, qu'on peut lire à propos, ça serait Joseph. À travers tout ce qu'il a passé. Et comme on voit l'histoire qui se déroule, on vient à la réalité qu'il n'était pas une victime. Il était une victoire. Il a triomphé au-dessus de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et Dieu veut qu'on passe par la même chose. Peu importe ce qui se passe. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies à travers les années. Mais Dieu nous dit, tu peux faire confiance à ma souveraineté. Si Joseph était en vie aujourd'hui, nous pouvons imaginer toutes les émissions qui voudraient lui parler. En entendant son histoire, ils diraient, nous voulons te t'avoir toute la semaine. Oprah l'aurait pendant un mois. Lui parler. Explique-nous comment tes frères te détestaient. Explique-nous comment ils voulaient que tu sois mort. Explique-nous c'était comment prendre la caravane en Égypte pour aller du fils préféré à l'esclave favori. Dis-nous, c'est fascinant. Mais la question comment est-ce qu'il est devenu celui qui pardonne le plus, avec le plus de miséricorde? Et comment est-ce que ça se passe encore aujourd'hui, lorsqu'il y a des victimes honnêtes? Des victimes honnêtes. Ils tournent à Dieu. Ils disent, Seigneur, je ne veux pas que cette plaie vienne définir ma vie. Je ne veux pas que ce que les gens ont fait, que ça vienne définir ma vie. Je veux que tu définisses ma vie. Je veux que c'est toi qui écrives mon histoire. La réponse est simple. Il était un homme de Dieu et non un homme du monde. Si nous sommes des enfants de ce monde, nos pensées, ils s'agrippent à la poussière. Il savait, le psalmiste, qu'il doit être encouragé par la parole de Dieu, puisque notre chair naturelle s'agrippe à la poussière. Et lorsqu'on a une perspective divine de notre vie, et lorsqu'on entend de Dieu, il est toujours fidèle de partager ses paroles, ses pensées. C'est pour ça. Bonne est ta fidélité, Seigneur, à moi. Je n'ai jamais rencontré un croyant qui a dit non, je ne peux pas dire ça. Il m'a, il m'a découragé. Non, je ne peux pas chanter cette chanson. Non, on la chante. Pourquoi? Puisque nous avons vu la fidélité de Dieu. Tout ce que j'ai eu besoin, Dieu m'a donné. Bonne est ta fidélité. Nous savons que c'est la vérité. Et nous allons à la fin de sa vie. Il n'y avait rien dans la vie de Joseph qui nous montrait qu'il était victime. Rien. Si vous feriez un reportage sur sa vie et qu'il lui demanderait, tu n'es pas troublé? Tu ne voulais pas une chance pour être... pour faire revanche à tes frères, oui, j'ai eu cette opportunité, mais je ne l'ai pas prise. Pourquoi? Puisque je sais qu'il y a un Dieu souverain. Je sais qu'il est au contrôle de tout. Même quand tout est hors de notre contrôle, nous avons confiance que Dieu est complètement au contrôle. Nous le savons. Nous avons... Nous avons un grand Dieu. Le psalmiste a dit qu'il est un grand Dieu. Et la doctrine de la providence, de la souveraineté, nous donne beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir. Dieu travaille souverainement dans nos vies, avec la providence divine. Joseph a même dit, à la fin de son histoire, est-ce que je suis dans la place de Dieu? Il n'a pas dit qu'il est Dieu, que Dieu a arrangé tout dans la vie de Joseph pour arranger qu'il soit quelqu'un qui délivre et sauve sa famille, sa nation, et qui aide à remplir toutes les promesses de Dieu. Pour que le Messie puisse venir et pour qu'on puisse célébrer Noël. Pensez-y. Joseph pourrait dire à ses frères, « Attendez, vous pensez que je suis ici par la chance? Vous pensez que j'étais chanceux? » Est-ce que Joseph a dit ceci lorsqu'il a approché ses frères, lorsqu'il était premier ministre en Égypte? Est-ce qu'il était debout devant ses frères et a dit, vous êtes chanceux que je suis ici? Non, il n'y a pas de chance dans notre vie. Si vous avez déjà vécu proche d'une mer, si vous pensez aux vagues, les vagues, ils viennent en groupe. Ce que je pense qui est une bonne vague, je me dis, ils viennent de manquer une vague. Mais eux, ils attendent. Ils attendent avec patience. Les vagues viennent dans des groupes. Et les vagues d'affliction viennent en groupe aussi dans nos vies. Demandez à Job. Il a eu trois vagues tuantes. Une vague après une autre vague après une autre vague. Et regardez à Psaume 88, verset 7. With all of your waves, hardships, sufferings, loss, avec des difficultés, des pertes, et même que maintenant on pourrait expérimenter en ce moment. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Le Seigneur donne et le Seigneur enlève. Sois béni le Seigneur. Le chrétien moderne pourrait dire que Dieu nous a donné et que le diable a enlevé. Mais Il a décrit la souveraineté de Dieu parfaitement, que Dieu nous donne et que Dieu nous enlève, et que béni soit son nom, puisqu'il est toujours en contrôle. Je ne comprends pas toujours, je ne sais pas pourquoi ça se passe, je me demande si Dieu est là, mais je pourrai regarder plus tard, quand tout est fini, et le louer, puisqu'il fait ça. Encore, Joseph n'a pas dit, vous êtes chanceux que je suis ici. Tu es chanceux que j'ai un bon résumé. Mais il a dit, je suis ici puisque Dieu m'a mis ici. Et vous êtes où est-ce que vous êtes aujourd'hui, puisque Dieu vous a mis là. Dieu vous laisse être là, puisqu'il est en train de travailler sur son plan, son beau programme pour votre vie. Nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais Dieu est un grand Dieu. Il est au contrôle de nous, de tout ce qui se passe dans nos vies. Ça rend de lui un Dieu souverain, un Dieu qu'on peut louer, même dans nos difficultés. Et nous devrions. Il y a des chapitres dans nos vies qui ne font aucun sens. Peut-être qu'il y a une vague qui vous a frappé. Et vous avez dit à Dieu, écoute, ça ne fait aucun sens. J'ai l'impression que à travers ce que je passe fait aucun sens. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, ne va jamais jeter nos difficultés. Ils vont toujours être utilisés. Tout ce qui nous trouble, Dieu va l'utiliser. Il y a des choses qui ne s'ajoutent pas dans nos vies. Où est Dieu? Où est le Dieu qui m'aime? Mais comme Joseph a dit, peut-être que les temps les plus difficiles dans nos vies ne font pas de sens jusqu'à temps que...
C.S. Lewis once said this, that the first words he believes he will speak when he enters into the presence of God.
C.S. Lewis a dit que les premières choses qu'il va dire lorsqu'il va rencontrer Dieu, ça va être bien sûr, puisqu'il va voir le mystère du plan de Dieu. Il va dire bien sûr, et je crois que nous allons dire la même chose. Je ne l'ai pas vu lorsque j'étais sur la terre. Je ne l'ai pas reconnu. Mais si quelque chose vient nous chercher en tant qu'enfant de Dieu, choisi, élu, ça va en premier passer à travers les mains gracieuses de Dieu. Et si ça passe à travers les mains gracieuses de Dieu, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et ça va fonctionner d'une façon profonde dans nos vies. Joseph a compris que seulement qu'après son trouble, après les ténèbres, les difficultés, dans le trouble, nous demandons à Dieu que ça passe. Passe-moi à travers, je ne peux pas attendre que c'est fini. Et nous réalisons, en regardant derrière, dans les moments les plus troublants, je suis rappelé et je dis au Seigneur, « Seigneur, je ne serai pas allé de retour pour le changer à cause du travail que tu as fait. » C'est comme le programme des mardis soirs, ça m'a permis de grandir en toi. Ça m'a fait grandir plus que si ma vie était remplie de joie, de paix, de plaisir. J'ai appris tellement à travers ces difficultés. Elles étaient tellement nécessaires dans ma vie. Ça ne fait pas de sens lorsque nous sommes dans la difficulté. Le plan de Dieu a l'air d'être caché de nous. On dirait que nous sommes abandonnés. Jésus a crié sur la croix, « Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé ici? » Et on pourrait dire en nous-mêmes que Dieu nous a abandonnés, mais c'était le plan parfait de Dieu pour qu'on puisse être assis ici et pour que nous puissions jamais dire ces mots. À cause du calvaire, nous ne pouvons jamais demander à Dieu, « Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? » Puisque Jésus était abandonné à la croix, ça nous donne la confiance que nous n'avons jamais besoin de dire ces mots. Et même si on les dit, le sang de Christ va nous pardonner. Joseph, est-ce que ça l'a fait du sens dans sa vie? Le Seigneur était dans les détails. Dieu est dans les détails. Parfois, nous pensons qu'il se préoccupe seulement des grandes choses dans nos vies. Nous pensons en David. Et on pense que David va faire face à Goliath et que ça va être glorieux, que les gens vont parler de ceci pendant des années, pour toujours, qu'ils vont parler de la belle, de la grande confrontation entre David et Goliath. Mais il doit s'occuper des brebis de son père. Et lorsqu'un ours est venu attaquer la brebis, Dieu l'a délivré. Et David a dit que Dieu l'a délivré. C'était toute une préparation dans le plan souverain de Dieu. Tout était de la providence, la provision. C'était tout nécessaire pour créer l'homme de Dieu. L'homme que nous appelons l'homme après le cœur de Dieu. Tout était nécessaire dans Psaume 20, Isaïe 1:25. Seigneur, tu es mon Dieu. Je vais te louer. Bon, Isaïe 25, 1. Soyez encouragés, puisque les plans que Dieu a pour vos vies, elle n'était pas créée pour venir. Bon, rien qui ne se passe dans nos vies rend Dieu à dire ah non, regarde ce dégât. Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu pourrait dire non. Dieu ne dit pas ceci. Ces plans ne sont pas pour venir remettre les dégâts en place. Ces plans étaient créés avant la fondation du monde. Nous pouvons prendre confort en ceci. Job 23, 14, c'est écrit que Dieu performe ce qui a été un rendez-vous dans notre vie. Et ceci va se passer à temps. Puisque Dieu n'est jamais tôt, il n'est jamais en retard, il est toujours à temps. Regardez, pensez aux trois garçons hébreux dans la fournaise. Et ils se disent, on dirait qu'on s'approche au feu. Où est Dieu? Pourquoi? Non, ils n'ont rien dit. Jésus était dans le feu, il a dit, entrez dans le feu. Et je vais m'assurer que votre esprit est bon. Pas seulement que vous allez voir la gloire de Dieu, mais vous allez avoir une promotion dans le royaume de Nebuchadnezzar. Avant l'affliction, mais aussi durant, il délivre. Le plan de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est difficile, oui, dans les détails. Mais le plan de Dieu promet de travailler pour notre bien dans Romains 8:28. Il y a peut-être un secret qui a l'air d'être caché de nous, mais on voit le plan de Dieu lorsque ça se déroule devant nous. Vous connaissez peut-être Bill Belichick. Peut-être que vous le détestez. C'est le coach des Patriotes. Il avait un père qui s'appelait Steve et son père était un grand homme du football. Ça s'est passé durant les années 50. Une année. Ils ont gagné. Ils ont pointé à Steve Belichick. Ils ont dit qu'il a gagné le jeu il y a longtemps, puisque leur entraînement était tellement exact. Et bon, ils ont gagné 2 semaines avant qu'ils se sont mis sur le terrain. Bonne nouvelle. Dieu nous a pas seulement planifié notre futur. Bon, il n'a pas seulement vu notre futur, mais il l'a planifié. Il sait déjà nos erreurs. Il connaît déjà comment nous allons tomber, nos problèmes avec notre chair. Il est déjà au contrôle de tout. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de le regarder, de pratiquer ce que ça veut dire d'exercer la foi à travers tout ce qui se passe dans notre vie. Dieu l'a fait avant. Il a créé le monde de la même façon qu'il nous a choisi avant que le monde soit créé, que nous soyons victorieux et non victimes. Et nous tous, nous pourrions passer à travers la vie en tant que victimes et dire, « Oh, ceci s'est passé à moi. » Ma fille, elle m'a fait un FaceTime. Elle avait comme une ceinture. Et elle montrait à ses 2 enfants, « Appelons notre grand-père. Qu'est-ce que c'est, papa? » « Ah, c'est la ceinture. » Elle a dit, « Qu'est-ce que ça veut dire? » Et il a dit, « C'est avec ça que nous ferions discipliner. » Et elle a dit, « Si je l'utilise, je vais aller en prison. » Et j'aurais pu dire à mon père, « Bon, la ceinture, j'avais toujours la ceinture. Mais nous sommes tous corrects. » Nos esprits n'étaient pas diminués à cause de la ceinture. Mais je dis à mon père, tu aurais dû me discipliner beaucoup plus. Et il a dit, oui, tu as raison. N'importe quelle personne ici, Lorsqu'on se tourne à Dieu, on réalise que même toutes les choses qui se passent dans nos vies, Dieu les met ensemble pour les utiliser, pour nous rendre conformés à son image, pour qu'on rende gloire à son nom. Chaque atome de l'univers est utilisé et créé par Dieu. Chaque atome est sous le contrôle de Christ. Je dois partager une histoire avec vous. C'est très profond. C'est à propos d'un homme qui s'appelle Staples. Il servait dans un bateau. Un matin, il y a quelque chose qui a explosé, qui l'a rendu dans la mer. Mais il portait une ceinture de sécurité. Lorsqu'il a frappé l'eau, il était assez conscient pour utiliser la ceinture. 4 heures plus tard, quelqu'un l'a sorti de l'eau. Et quelques heures plus tard, son bateau était rendu à la terre. Et Staples s'est trouvé de retour dans la mer. Il n'a jamais enlevé la ceinture qui l'a sauvé. Et ça l'a sauvé une autre fois. Quelques heures plus tard, il était secouru de la mer. Il n'a jamais lâché la ceinture de sécurité. Il y a quelqu'un qui a mis cette ceinture ensemble. Il regardait la ceinture. Que cette ceinture l'a sauvé 2 fois. La ceinture était faite dans sa propre ville. Après son hospitalisation, ils l'ont laissé repartir à la maison. Lorsque je suis finalement sortie pendant 30 jours et que je suis allée visiter ma famille, j'étais assis avec ma mère et je lui racontait l'histoire. En entendant ce qui s'est passé à la maison, ma mère m'a informé qu'elle devait faire sa partie. Elle travaillait. Et j'ai mis ma ceinture. Regarde, cette ceinture était faite ici. Où est-ce que tu travaillais? Elle a regardé la ceinture. Elle a lu l'étiquette. Et elle savait que dans la noirceur de cette nuit, elle l'a regardé. Elle était surprise. Elle a dit, « Mon fils, je suis inspecteur à la plantation et c'est mon numéro d'inspection. » Ils se sont regardés. Il s'est levé. Lui a donné un câlin. Il n'a rien dit. La signification de cette coïncidence est venue pour l'apprendre dans ses émotions. La mère a mis ses mains autour du monde pour le sauver. Il a appelé ceci une coïncidence. Mais nous appelons ça la souveraineté, que Dieu est dans chaque détail, que Dieu ne regarde qu'il n'y a aucun détail qui passe à travers lui. Bon, ce matin, en regardant que Joseph, oui, que dans la vie de Joseph, Dieu a travaillé de façon mystérieuse, que nous ne pouvons même pas comprendre, mais nous avions cette confiance qu'il est avec nous, que nous ne sommes jamais seuls, qu'il nous regarde toujours. Il ordonne nos pas. Nos vies existent pour lui rendre gloire. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de garder nos yeux sur Jésus. Pas de temps en temps, mais en le fixant et en ayant repos dans la grande souveraineté de Dieu. Il n'y a aucun d'entre nous qui veut passer à travers la vie en tant que victime. Et nous pouvons louer Dieu en sachant que nous n'avons pas besoin. Nous sommes plus que conquéreurs en lui. Il n'y a aucune chose qui va rentrer dans notre vie, même pas un atome. Même les atomes. Christ est au contrôle de tout. Quelle confiance, quel repos, quelle assurance qu'on peut avoir en naviguant à travers la vie. Comme Joseph, à la fin de sa vie, il a pardonné, il avait de la miséricorde. Il glorifiait Dieu. Dieu a fait tant de travail dans sa vie. Il aurait pu être le plus grand victime au monde, mais ce n'est pas l'histoire qu'on lit. Et ça ne sera pas l'histoire de nos vies. À cause du grand Dieu, du bon Dieu, du Dieu souverain, le Dieu qui dirige ses enfants à travers la vie. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta présence avec nous. Pour tes gens. S'il y a quelqu'un ici, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas ce Seigneur, un Seigneur qui est complètement au contrôle, souverain, qu'il est roi, qu'il est suprême au-delà du monde, comme le psaumiste dit, il fait comme il plaît. Peut-être que récemment, vous avez passé à travers des vagues difficiles en essayant de naviguer à travers, qui ne font aucun sens. Peut-être que ces vagues étaient envoyées dans votre vie pour vous mener à une place où est-ce que vous devez faire confiance à Christ. Si vous n'avez jamais fait la décision d'inviter le Seigneur dans votre cœur pour qu'il soit votre Sauveur personnel, c'est pour ça qu'il est entré dans ce monde, pour vous sauver, pour te délivrer, pour te donner une confiance, une espérance, et pour comprendre pourquoi tu es ici. Dis à Jésus, sauve-moi, pardonne-moi de mes péchés, prends-moi dans ta famille, guide la nature de ma vie, de ce jour au-delà. S'il y a quelqu'un qui a dit cette prière, pour qu'on puisse vous encourager de cette décision, s'il y a quelqu'un qui lève sa main. Seigneur, nous te remercions qu'on puisse nous assembler en ton nom. Qu'on puisse réfléchir sur ces pensées aujourd'hui avec grande reconnaissance. En le nom de Jésus, on prie. Amen.